J'espère que vous allez bien, mais en tout cas que nous allions bien ou mal, nous avons l'occasion de nous placer devant la parole de Dieu, ce qui est une grâce. Voilà. Nous allons lire ce matin deux textes. Le premier dans 1 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens 10, à partir du verset 23, et là, on va lire les versets 23 à 33. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans poser de questions, par scrupule de conscience, sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira, sans vous poser de questions, par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors ne mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends évidemment non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Amen. Et un deuxième texte, Romains chapitre 14. Donc on va en arrière. Romains 14, et là, les versets 1 à 12. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi sans vous ériger en juge de ses opinions. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout, l'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître, mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre. Pour celui-là, ils ont tous la même valeur. À chacun d'avoir une pleine conscience en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère ou pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Amen. Le thème de ce matin, c'est « Liberté acquise, liberté à bien vivre. » Liberté acquise, liberté à bien vivre. Et nous allons aborder la question très importante de ce qu'on appelle la gestion de la liberté. La gestion de la liberté. Dans les deux textes qu'on vient de lire, on voit effectivement cette question de la gestion de la liberté qui est en premier plan et qui est vraiment le centre de la discussion. On voit dans Romains 14 l'apôtre Paul qui s'adresse à la communauté de Rome où se côtoient différents types de chrétiens. Donc à Rome, il y a différents types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont des juifs et des chrétiens qui sont des non-juifs, des nouveaux croyants, des païens qui ont cru. Et on est dans une communauté dans laquelle il y a donc une sorte de mixité qui crée des difficultés, puisque certains s'abstiennent de nourriture, de certains types de nourriture, d'autres pas. Certains mangent, d'autres ne mangent pas certaines choses. Certains observent des jours spéciaux, d'autres n'en observent pas. Et ces différentes façons de pratiquer la foi, ils avaient la même foi, mais ils pratiquaient la foi de façon différente. Ils avaient des pratiques de foi différentes. Ça créait des atmosphères désagréables, puisque on jugeait les uns, on jugeait les autres. On ne trouvait pas normal qu'un tel faisait comme ça, et pourquoi tu manges, et pourquoi tu ne manges pas. Et donc ça créait, si vous voulez, une atmosphère où il manquait d'unité, où il manquait de cohésion. Parce qu'on s'arrêtait sur les différences de pratiques de foi, et on se permettait parfois de juger, d'être mal à l'aise. Et on sait que dans Romains 14, il y avait deux grandes questions qui posaient souci. La question de la nourriture et la question des jours, les jours spéciaux. Alors, les jours, on ne sait pas très bien s'il s'agit uniquement des Juifs qui pratiquaient le Shabbat et d'autres fêtes, ou si c'est aussi les païens qui avaient des jours spéciaux. Vous savez que le paganisme aussi a des jours spéciaux, comme on a d'ailleurs encore des calendriers dans lesquels il y a des références à d'autres choses. Et on voit dans Romains 14 que l'apôtre renvoie chacun à sa propre conscience, à sa propre conviction, à sa propre liberté, à son propre choix. Il ne tranche pas la question, bien qu'il aurait l'autorité de le faire. Comme apôtre, il pourrait dire, faites comme ceci, faites comme ça, voici ce que... Il ne tranche pas. Il renvoie chacun à sa propre conscience, à sa propre conviction, à sa propre liberté. Et donc, on arrive à ce thème important de la gestion de la liberté. Et vous savez qu'on est entré dans une nouvelle série de messages, et on a vu la dernière fois qu'un chrétien mature, c'est quelqu'un qui a la bonne référence, qui sait que Christ est sa référence. Et puis, une deuxième caractéristique d'un chrétien mature, c'est qu'il sait gérer sa liberté. Un chrétien mature, c'est gérer la liberté que Dieu lui donne. Il est capable, devant les choix qui sont présentés à lui, de faire les choix qu'il estime être les plus appropriés. On sait que dans la famille, on considère qu'un enfant est mature quand il peut se gérer lui-même, quand il est capable de gérer sa propre vie sans avoir besoin de quelqu'un qui lui dit « fais ça, ne fais pas ça, va à gauche, va à droite ». On estime que la personne est capable de gérer sa liberté. Quand un enfant est déjà capable de faire ses devoirs sans qu'on doive lui dire de les faire, on considère déjà qu'il est autonome. Ça n'arrive peut-être jamais, mais enfin, soit, c'est très rare. Mais je veux dire, parfois, il y a des enfants qui rentrent de l'école, ils sortent leurs devoirs, ils font ça sans qu'on ait besoin de leur dire quoi que ce soit. Et donc, la maturité veut dire quoi ? Veut dire que j'ai une liberté qui m'est laissée, mais je sais la gérer correctement. Et nous aussi, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, notre maturité, elle va dépendre de la façon avec laquelle nous allons gérer la liberté que Dieu nous donne. La liberté que Dieu nous donne de faire certains choix et pas d'autres, et même dans l'Assemblée, de faire des choix différents par rapport aux mêmes questions. Alors, avant que nous puissions vraiment nous arrêter sur cette question de la liberté, il faut bien que nous replacions cette liberté dans la grande œuvre du salut. Puisque l'alliance de grâce dans laquelle nous sommes avec Jésus est une alliance de liberté, une alliance de libération. Et c'est là-dedans que ça s'inscrit. C'est parce que nous sommes entrés dans une relation avec Dieu, dans une alliance avec Dieu de libération, de liberté, de délivrance, que nous avons à vivre une certaine liberté. On a chanté plusieurs fois, deux fois, « Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. » Tu nous affranchis, c'est-à-dire tu nous libères. Et l'autre chant qu'on a chanté aussi, « Je t'adore, mon Seigneur, mon Roi, tu m'as donné la vie et tu m'as affranchi. » Tu m'as libéré. Donc, nous sommes dans une relation, dans une alliance avec Dieu, une alliance de liberté. Mais qu'est-ce que cette liberté ? La liberté signifie que, en Christ, nous sommes libérés de l'esclavage du mensonge de Satan et de l'esclavage du péché. Ça veut dire que celui qui est en Christ est libéré de cet esclavage du péché, cet esclavage du mensonge. C'est Jésus qui dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez ma vérité et cette vérité vous affranchira. » Donc la connaissance de la vérité de la parole de Dieu nous affranchit du mensonge de l'ennemi. Peut-être que certains d'entre nous, on a vécu pendant des années avec le mensonge selon lequel Dieu n'existe pas. ou le mensonge avec lequel, ben voilà, vis ta vie, parce que de toute façon, après la vie, il n'y a plus rien, après nous, les asticots. Mais quand nous entrons dans notre relation avec Jésus, nous découvrons la vérité, et cette vérité nous affranchit du mensonge. Cette vérité nous affranchit du péché. Nous sommes affranchis du péché en Christ, par Christ, sachant, Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Nous ne sommes plus vivants au péché. En étant identifiés à Christ qui est mort pour nous, eh bien, nous sommes libérés du péché. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Ça veut dire que nous sommes libérés de cette chair, de cette tendance, de cette domination du péché dans nos vies, comme règle, comme façon de vivre. Mais bien plus, Romains 8, 2 nous dit que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que ce péché dans lequel nous étions inscrits, cette vie de péché dans laquelle nous étions inscrits, nous conduisait à la mort. Alors on ne va pas s'arrêter sur ce verset-là, puisque ça a été le thème de l'étude biblique de Mgr Van der Kappel pendant des semaines. Tout le monde a bien compris ce Romains chapitre 6, n'est-ce pas? Vous étiez tous là, donc vous savez de quoi il s'agit. Cette alliance en Jésus nous libère aussi de la peur de la mort. La peur de la mort. Hébreux 2, verset 15, dit « Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ça veut dire que quand on ne connaît pas Dieu, on peut être retenu toute sa vie dans la servitude de la peur de la mort. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer. Et vous savez bien que dans les hommes, il y a des gens qui, quelques heures avant de mourir, voient demander aux infirmières qui travaillent dans des homes, sont vraiment dans... Ils voient du feu, ils voient des choses, et ils ne meurent pas dans la paix, en disant « je sais où je vais ». Non, ils meurent en ayant, pendant des années, toute leur vie parfois, vécu dans la servitude de la peur de la mort, de l'angoisse de la mort. Alors que nous sommes libérés de cette peur, puisque nous savons qu'il nous prépare, il nous a préparé une place. Et même si la mort reste affreuse, ce n'est plus une perspective qui est pour nous affreuse, puisque nous savons où nous allons. Nous sommes libérés aussi de l'esclavage de la loi. La loi qui nous accusait, nous condamnait, nous donnait des prescriptions rigoureuses et difficiles à mettre en œuvre, mais qui ne nous donnait aucun outil pour vivre hors du péché. C'est-à-dire que la loi te juge, la loi te condamne, la loi dit ce qui est péché, mais elle ne fait que te condamner. Elle te tient sous sa domination parce qu'elle te condamne, mais tu n'as rien d'autre pour te sortir de ce dont elle te condamne. Mais en Jésus, nous sommes libérés de la domination, de l'esclavage de la loi, parce que nous sommes entrés dans une alliance de la vie, une alliance de la vie dans laquelle l'Esprit de Dieu met en nous la capacité de nous sortir du péché. L'Esprit de Dieu nous donne cette capacité, en entrant en nous, de nous sortir du péché. Cette loi ne peut plus nous atteindre, elle ne peut plus nous condamner, elle ne peut plus nous retenir prisonniers, nous retenir comme des détenus. Elle nous condamnait, mais elle ne nous donnait aucune possibilité. Elle exigeait sans nous aider. Et donc nous étions sous cette domination, cet esclavage de la loi. Mais en Jésus, nous recevons l'Esprit qui nous fait entrer dans une vie nouvelle. Une vie nouvelle dans laquelle le péché n'a plus sa domination, n'a plus son règne. Mais nous vivons dans une liberté par cet Esprit. Cet Esprit que nous recevons renouvelle notre être entier. On a parlé en juillet de la circoncision du cœur. Cet Esprit renouvelle notre être entier pour que nous puissions obéir à Dieu, pour que nous puissions nous offrir à Dieu, pour que nous puissions vivre comme il lui plaît, pour que nous puissions lutter contre le péché. L'alliance en Christ nous libère de la peur aussi, pas seulement de la peur de la mort, mais aussi de la peur tout court. Et si nous avons, et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être dans la peur, dit Romains 8, 15, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, et non pas un esprit pour rester dans la peur, mais un esprit pour reconnaître Dieu comme Père. Cette liberté, nous la recevons en Christ. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des héritiers, nous sommes des fils, nous sommes adoptés en Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Christ nous a rendus libres afin que nous connaissions la liberté. Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 2 Corinthiens 13, 17, là où le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans cet esprit, on est dans une alliance de liberté. Plus sous un esclavage, plus sous une domination, plus sur quelque chose qui nous écrase et qui nous condamne, mais nous entrons dans la liberté que le Christ nous donne. Et même la Bible est appelée la parole, la loi de la liberté. La loi de la liberté. Dans Jacques 1, 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. On appelle la loi de Dieu la loi de la liberté. Donc nous ne sommes pas sans la loi. La loi n'a pas été détruite, la loi n'a pas été abolie, mais elle n'a plus cette domination sur nous et l'Esprit nous donne la capacité d'obéir à Dieu. Mais tout ça, évidemment, ce sont des rappels. Mais donc, quel est le sens de cette liberté que nous avons en Christ? Quel est le sens de cette liberté? L'apôtre nous donne quand même quelques principes qui nous permettent de comprendre comment nous devons exercer cette liberté, sur quoi nous devons exercer cette liberté. Et donc, on va voir quelques principes de base pour se dire, mais finalement, je suis libéré d'une domination, je suis libéré d'un esclavage, et je suis appelé maintenant, étant libre, étant racheté, appartenant à Christ, à gérer ma liberté. Premièrement, comme chrétiens, nous gérons notre liberté par rapport à des choses qui ne sont pas des péchés. Nous gérons notre liberté par rapport à des choses qui ne sont pas des péchés. Quand l'apôtre dit « tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile », le « tout m'est permis » en fait ne veut pas dire tout. Quand il dit « tout m'est permis », il parle de tout ce qui n'est pas péché, mais permis. Tout ce qui n'est pas condamné par la loi de Dieu, mais permis. À l'intérieur de toutes les choses qui ne sont pas péchées, j'ai à exercer une certaine liberté. Je ne peux pas dire « j'exerce ma liberté de croyant en mentant ». Parce qu'alors là, je me remets sous l'esclavage. Et je ne vis plus dans la liberté que le Christ me donne. Donc nous exerçons notre liberté par rapport à des choses qui ne sont pas des péchés, des choses qui ne sont pas condamnées par la Bible. Il y a tout un ensemble de sujets sur lesquels la Bible reste muette. On verra dans quelques instants tout un ensemble de sujets sur lesquels la Bible ne dit rien et sur lesquels nous avons à gérer notre liberté par nous-mêmes et à faire des choix. Le chrétien est libre non pas de suivre son penchant au mal, de suivre sa chair, de suivre ses passions charnelles, mais il est libre pour servir le Seigneur et pour servir les autres. Quand on dit qu'on est libre en Christ, ça ne veut pas dire « je suis libre, donc je fais ce que je veux ». Quand on dit « je suis libre », c'est « je suis libre du péché ». Je suis libre de la loi du péché et donc je peux me mettre au service de Dieu et au service de mes frères. Nous, quand on nous dit liberté, on comprend « je suis libre, je fais ce que je veux ». Mais non, je suis affranchi du péché. Je suis affranchi de la loi qui me condamne à vivre dans le péché. Je suis affranchi de ce qui, en moi, me conduit au péché. Je suis libre pour me mettre au service de Dieu, pour me mettre au service des autres. Nous étions esclaves, Jean-Pierre en a parlé, mais il nous a rachetés pour que nous soyons libres de le servir, libres de faire sa volonté, libres de vivre dans son plan. Hors des chaînes du mensonge, hors des chaînes du péché, hors des chaînes de l'esclavage, pour nous mettre au service de Dieu. La liberté signifie l'affranchissement du péché. Une deuxième chose qui doit conduire notre usage de la liberté, c'est que notre liberté doit toujours être orientée vers ce qui édifie. Nous devons choisir ce qui édifie, c'est-à-dire ce qui fait du bien à notre prochain, ce qui profite à notre prochain, ce qui est constructif pour l'autre, ce qui peut répondre aux critères de l'amour du prochain, qui peut édifier, qui peut encourager, qui peut faire du bien à l'autre. Saint Jean de la Croix, qui est un mystique catholique, disait une grande affirmation. Il disait « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. » Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. L'amour que nous aurons eu pour Dieu et l'amour que nous aurons eu pour notre prochain. Un troisième critère pour gérer notre liberté, c'est l'intention de vouloir plaire à Dieu. L'intention de vouloir plaire à Dieu. Comme on l'a lu dans le texte, l'apôtre, quand il renvoie les gens à leur liberté, ne leur dit pas « faites ce que vous voulez, de toute façon, faites comme ça vous chante ». Il les renvoie à leur liberté parce qu'il dit « chacun d'entre vous, lorsque vous agissez d'une façon ou d'une autre, vous le faites pour plaire au Seigneur ». Il dit « celui qui mange, mange pour plaire au Seigneur, puisqu'il rend grâce. Et celui qui ne mange pas, le fait aussi pour plaire au Seigneur ». Donc quand je suis libre, je ne suis pas libre de faire ce que je veux, je suis libre de choisir une façon de faire qui pour moi plaît au Seigneur. Je choisis une voie qui plaît au Seigneur. Donc nous sommes libres pour faire des choix qui plaisent au Seigneur. Romains 14, verset 6, « Celui qui le fait pour le Seigneur. Celui qui mange, le fait pour le Seigneur. » Donc l'intention qu'il a en mangeant, c'est de plaire à Dieu. Le choix qu'il fait, consciemment, il le fait pour plaire à Dieu et non pas pour se plaire à lui-même. Non pas pour satisfaire sa propre liberté. Et puis un troisième principe, c'est que chacun de nous aura rendre des comptes à Dieu pour la gestion que nous aurons faite de notre liberté. Chacun de nous aura à rendre des comptes à Dieu. Alors allons dans le concret pendant quelques minutes. Il y a dans la Bible des sujets qu'on appelle des sujets primaires et des sujets qu'on appelle des sujets secondaires. Les sujets primaires sont les sujets qui sont réglés dans la Bible et pour lesquels nous n'avons pas de possibilité de gérer notre liberté puisque la Bible les règle de façon claire, univoque. Et il y a des sujets secondaires, des sujets pour lesquels la Bible ne dit rien et pour lesquels le chrétien, dans sa vie, doit bien faire des choix et doit bien estimer ce qui, pour lui, plaît à Dieu. Quels sont les sujets primaires? Prenons des exemples de sujets primaires. Les sujets primaires, c'est par exemple la confession de foi, l'inspiration de l'Écriture, la Trinité, la divinité du Christ, l'incarnation du Christ, la perdition de l'homme, le salut en Christ seul, la justification, la régénération, la nouvelle naissance, le baptême d'eau par immersion, le retour du Christ. Ça, ce sont des sujets pour lesquels la Bible parle. Je ne peux pas choisir en disant oh, « moi, je gère ma liberté, ça, j'y crois pas, ça, j'y crois ». Ça, c'est des sujets pour lesquels la Bible parle, des sujets primaires. Pour lesquels nous avons un enseignement clair de la Bible et dans lequel le chrétien va s'inscrire parce qu'il veut plaire à Dieu. D'autres sujets primaires, c'est les principes de l'éthique chrétienne, les grands principes de l'éthique chrétienne. La sainteté du mariage, l'ordre dans la famille, la Bible condamne certains comportements, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, ce sont des sujets qui sont réglés dans la Bible. Mais aussi certains comportements mondains, la haine, la jalousie, la médisance, les paroles obscènes, le vol, l'assassinat, l'ivresse, la sorcellerie, ce sont tous des sujets qui sont réglés dans l'Écriture. Et pour lesquels le chrétien, qui veut plaire à Dieu, doit simplement prendre sa Bible et décider d'obéir. C'est aussi des sujets primaires, l'intégrité personnelle, la droiture dans les finances, la valeur de notre parole, la parole que nous donnons, le respect des lois, le respect des autorités, le principe de la sobriété, le contrôle de nos pensées, de nos attitudes, de notre colère, le principe de l'amour pour les autres, le principe de la modestie, éviter tout ce qui peut être inconvenant, tout ce qui peut être impur, tout ce qui peut être grossier, tout ce qui peut être impudique, indécent. Ce sont tous des sujets sur lesquels la Bible s'exprime. Et il y a à côté de ça tout un ensemble de sujets sur lesquels la Bible ne dit rien et pour lesquels nous avons à gérer notre liberté. Par exemple, quel film regarder? quel film, en tant que chrétien, je choisis de regarder et quel film je choisis de ne pas regarder? Est-ce que la Bible donne une liste des films qu'un chrétien doit regarder et des... Il n'y a pas de liste. Chacun, devant sa télévision, doit gérer sa liberté et faire le choix de dire « ce film, moi, je le regarde ou je ne le regarde pas ». Quelle musique écouter? La Bible ne dit pas « ben voilà, telle musique n'est pas écoutée, telle musique... » On n'a pas d'informations à ce sujet. Le chrétien doit gérer sa liberté. Quel livre lire? Quelle littérature lire? Quel genre de journaux lire? Est-ce que je peux lire Charlie Hebdo, moi, comme chrétien? Est-ce que la Bible dit ça? La Bible est muette à ce sujet. Quelle méthode médicale accepter? L'hypnose, l'homéopathie et tout ce qu'on peut. Est-ce que la Bible dit? Quel sport pratiquer? Est-ce qu'un chrétien peut faire de la boxe? C'est une question. Celui qui fait du judo, il apprend à se défendre. Celui qui fait de la boxe, quel est son objectif? Donner le plus de coups à l'autre et le mettre KO. Est-ce que comme chrétien, je peux faire de la boxe? Je dois gérer ma liberté sur ce sujet-là. À quelle corporation adhérer? À quel groupe je peux adhérer? Quel hobby pratiquer? Les médias, la radio, la télévision, les disques? Quelle nourriture consommer? Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je ne peux pas manger? Est-ce que je dois être végétarien en étant chrétien? Ou est-ce que je ne dois pas l'être? Ou est-ce que... C'est pas écrit, hein, ça. Il n'y a pas un petit manuel à côté de la Bible pour dire ce qu'on doit faire dans toutes ces situations-là. Comment est-ce qu'un chrétien doit gérer son argent? Est-ce que je peux jouer au loto? Est-ce que je peux jouer à la bourse? Est-ce que je peux... Avec qui est-ce que je peux échanger? Avec qui être ami? Comment organiser notre spiritualité? Ce sont tous des sujets pour lesquels nous avons à gérer notre liberté. Pour lesquels le chrétien, dans sa maturité chrétienne, dans sa vie... va devoir faire des choix. Et avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, dire « Moi, je veux choisir ce qui plaît à Dieu. » Il y a donc des sujets primaires sur lesquels on ne discute pas, et puis des sujets sur lesquels chacun d'entre nous, nous avons à apprendre à gérer notre liberté. Ça nous rend tellement responsables, n'est-ce pas? La foi chrétienne, ce n'est pas une foi dans laquelle Dieu nous garde comme des gagas. C'est une foi dans laquelle il nous rend responsables. Responsable de notre vie, responsable de notre foi, responsable de nos choix, responsable de notre liberté. Et dans laquelle, au jour le jour, il va falloir faire des choix. Des choix qui plaisent à Dieu. À côté de ça, à côté des sujets primaires sur lesquels la Bible dit tout, et des sujets secondaires sur lesquels il nous faut gérer notre liberté, il y a tout un ensemble de sujets pour lesquels l'Église, a joué un certain rôle. Des sujets qui sont des sujets, entre guillemets, intermédiaires, sur lesquels on pourrait dire la Bible ne dit rien, mais l'Église a un certain rôle d'enseigner certaines choses, d'éclairer les croyants sur un certain nombre de pratiques et un certain nombre de choses. Je gère ma liberté, mais en même temps, l'Église doit parfois se prononcer sur des choses qui se passent dans le monde pour informer les chrétiens de certaines choses. Prenons quelques exemples. Un chrétien qui vous dit, mardi, je ne serai pas à la réunion de prière. Ça va, d'accord, c'est bien. Parce que j'ai une réunion. T'as une réunion, c'est bien, bonne réunion alors. C'est une réunion, c'est vraiment très bien, on est dans une petite salle et on discute. Et vous discutez? C'est bien, j'aime bien moi quand on discute. Ça s'appelle une loge. Une loge? Et qu'est-ce que vous faites dans la loge? C'est une loge maçonnique. On discute de plein de choses, et puis on a des petits costumes, et voilà. Vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire, écoute, gère ta liberté, t'es franc-maçon, mais c'est pas grave. L'Église doit donner une certaine parole à ce sujet. Doit éclairer les chrétiens sur ce qu'on peut faire dans ce genre de choses. Sur le genre de choix qu'un chrétien est censé poser dans ce genre de choses. Je dis pas que les francs-maçons sont des... Mais pour qui connaît le fond de la franc-maçonnerie, ce n'est pas un endroit où un chrétien doit se trouver. Un chrétien qui va vous dire, écoute, je reviens de vacances, ça s'est très bien passé. Ah, c'est bien, ça s'est très bien passé. Ah, ben, c'est bien, c'est cool que ça... C'était cool. Oui, c'était bien, on s'est éclaté. Ah, ben, moi, je suis content. Et ce qui est bien, il vous dit, ce qui est super là-bas, c'est que devant la plage, il y a quand même un porte-manteau. On a un porte-manteau devant la plage. Un porte-manteau, et pourquoi faire ? Ben, pour déposer nos habits, c'est une plage nudiste. Vous lui dites quoi ? Gère ta liberté ? Ou alors vous lui dites, montre-moi tes photos. Vous comprenez que ce sont des sujets sur lesquels il y a un message à donner et sur lesquels il faut quand même éveiller les chrétiens sur le fait que c'est peut-être un comportement qui ne plaît pas à Dieu. Et parfois, les chrétiens n'ont pas le discernement et l'enseignement de l'Église a pour rôle d'aiguiser notre discernement pour que nous soyons capables de toujours plus faire des choix qui plaisent à Dieu. Un chrétien qui vous chante une chanson, je vais vous la chanter, mais en français, ça va ? Je vais essayer de donner un petit rythme. Ça va ? Je vais essayer, mais ce n'est pas facile. Attendez, je rentre dans le truc. Pour la vie que je prends, je vais en enfer. Pour les lois que je brise, je vais en enfer. Pour l'amour que je déteste, je vais en enfer. Pour les mensonges que je fais, je vais en enfer. Pour la façon dont je dédaigne et ne donne pas de coup de main, je vais en enfer. Mon arrogance fait enterrer cette tête dans le sable, pour les âmes que j'abandonne, je vais en enfer, je suis marié au diable, vous pouvez entendre les cloches du mariage. Chanson de 2014, qui s'appelle Going to Hell, donc je vais en enfer. Est-ce qu'un chrétien peut passer sa journée à écouter une chanson qui dit « Je vais en enfer, je suis marié au diable ». Est-ce que je plais à Dieu quand je chante ça ? Pourtant, c'est de la liberté, n'est-ce pas ? La Bible ne dit pas « tu ne chanteras pas telle chanson ». La Bible ne dit pas « tu n'iras pas dans une plage nudiste ». Ce sont des sujets pour lesquels il nous faut gérer notre liberté. Il y a tout un ensemble de choses qui se passent dans le monde dans lesquelles, parfois, on est démunis. Je donne l'exemple, par exemple, de la Rose-Croix. Bon, la Rose-Croix, vous connaissez la Rose-Croix ? La Rose-Croix, c'est le genre de truc, par exemple le Graal aussi, le message du Graal. Ce sont des sujets sur lesquels, si vous lisez un livre de la Rose-Croix, vous ne pouvez ne pas vous rendre compte que c'est hérétique. C'est-à-dire qu'il y a des courants dans le monde qui sont tellement pernicieux dans le mensonge qu'ils transmettent, que si on ne vous dit pas que ce n'est pas chrétien, vous ne vous en rendrez même pas compte. Vous lirez ça, vous direz « Oh, c'est bien, c'était intéressant. Ouais, » mais bon... Message du Graal, même chose. Moi, j'ai déjà lu un truc du message. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, on n'a pas le temps. Hein. Mais le message du Graal, même chose. Vous lisez un texte en entier, vous avez l'impression que c'est tout à fait biblique. Mais en fait, pas du tout. On a discuté à la pastorale il y a quelque temps d'une secte, d'un mouvement dans lequel on renie la Trinité, par exemple, avec ce qu'on appelle le modalisme. Eh bien, le modalisme, par exemple, c'est une hérésie qui concerne la Trinité et qui est une hérésie qui est portée par un mot dans la confession de foi, un seul. Le modalisme, c'est le fait de croire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais pas en même temps, d'accord ? Donc, il y a des moments où Dieu est Père, il y a des moments où Dieu est Fils, et un moment où Dieu est Saint-Esprit. Mais il n'est pas en même temps, vous voyez un peu l'idée ? Donc quand Jésus prie en disant « Père, je te remercie », il fait de la comédie. Ça, c'est le mouvement du modalisme. Et dans la confession de foi, l'erreur, elle concerne un seul mot. Si vous enlevez le mot, eh bien, vous êtes dans le faux. Si vous rajoutez le mot, bien, vous êtes dans le juste. C'est très fin, très précis. Des sujets pour lesquels nous avons à gérer notre liberté. Et ça, ce sont des sujets sur lesquels, si je suis mon petit chrétien tout seul dans ma chambre, je n'arriverai pas à discerner. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider à comprendre le sens de la chose, tu risques d'être perdu. C'est pas juste que des gens qui disent « Oui, mais ça va, moi je m'en sors, je lis mon petit signet tous les matins. » Ah oui, d'accord, mais ce sont pas des sujets pour lesquels le petit signet est suffisant. Nous avons à être dans la communauté chrétienne avec les frères et sœurs qui nous aident à discerner un certain nombre de choses, qui nous avertissent sur certains dangers qu'il y a autour de nous. tellement de sujets sur lesquels nous avons à gérer notre liberté et sur lesquels nous avons à faire des choix en voulant faire des choix qui plaisent à Dieu. Alors, pour terminer, quels devraient être nos critères pour gérer notre liberté? On va donner tout un ensemble, une liste de questions rapidement, qui sont des questions que le chrétien se pose quand il vit, quand il est face à certains choix. Il se pose la question, mais finalement, je donne des exemples de questions, est-ce que c'est durablement utile que j'ai l'intention de faire? Est-ce que c'est durablement utile? Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile ce que je vais faire là? Le choix que je vais poser, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça me construit ou est-ce que ça me détruit? Est-ce que ça construit quelque chose autour de moi? Est-ce que c'est édifiant pour moi? Est-ce que c'est édifiant pour les autres? Romains 15, 2 dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est-à-dire, faites les choses pour le bien du prochain, pour l'édification de l'autre. Y a-t-il un intérêt pour autrui? Est-ce que ça contribue à la paix? Une autre question, y a-t-il un danger que cette chose me rende esclave, m'asservisse? C'est une question qu'il faut se poser dans les choix que je veux faire. Est-ce qu'il y a un danger que cette chose me rende esclave? Si je vais jouer au casino, quelqu'un vous dit, écoute, je ne serai pas au culte ce dimanche parce que j'ai une réunion au casino. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que le casino te rende esclave? Et est-ce que tu es dans la liberté du Christ quand tu es esclave? Est-ce qu'il y a un danger que cette chose me rende esclave? Vous savez que quand on écoute, par exemple, la musique, le rock'n'roll, pour certains types de rock'n'roll, hein, je ne suis pas en train de... Mais il est démontré un lien entre certains types de musique et la criminalité, certains types de criminalité. Quand vous écoutez quelqu'un qui dit, un rappeur qui dit « je vais te tuer, je vais faire ceci à ta mère et ceci à ta mère », ben, vous ne pouvez pas avoir une âme complètement propre des choses que vous avez entendues. Quand quelqu'un passe sa journée à jouer à des jeux de guerre où on tue tout le monde, est-ce que ça peut être complètement, complètement indépendant de la personne qu'il est? Est-ce qu'il y a un danger que cette chose m'asservisse? C'est la même chose, par exemple, avec les jeux d'argent, mais ce serait la même chose avec la nourriture, par exemple. La nourriture ne doit pas non plus être notre maître. Nous ne devons pas être esclaves de la nourriture. Y a-t-il un danger que cela devienne mon idole? C'est une autre question qu'un chrétien peut se poser. Y a-t-il un danger que cela devienne mon idole? Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Le tiercé. Est-ce que la Bible dit qu'on ne peut pas jouer au tiercé? C'est écrit nulle part. Mais si je dépense la moitié de mon salaire pour mon tiercé, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu que ma femme, mes enfants soient privés d'un certain quantité d'argent parce que je joue au tiercé? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu, ça? Question. Est-ce que cela ne peut pas devenir un jour mon idole, la chose pour laquelle je vis? Une autre question, est-ce que je fais cela pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je vais faire, je vais le faire pour la gloire de Dieu? Puisqu'il dit, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Hein? Est-ce qu'il est possible d'aller sur une plage nudiste en disant, mais moi je le fais pour la gloire de Dieu, vous savez. C'est vraiment, je veux vraiment que Dieu soit glorifié dans ce que je vais faire. Vous avez l'air de dire que c'est possible. Hein? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Une autre question, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Parce qu'il y a des sujets sur lesquels la Bible est claire. Pour l'instant, on a beaucoup dans les églises des gens qui disent « la Bible n'en parle pas ». Mais il y a des sujets pour lesquels la Bible en parle. C'est juste qu'il faut savoir comment lire les textes et comment les lier. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Une autre question, Romains 15, 12, 2 nous dit « afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ». Une autre question qu'on peut se poser, ce que je vais faire là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que Dieu peut dire, c'est bon ce que tu fais? C'est agréable ce que tu fais? Ça me plaît ce que tu fais? Ou est-ce que Dieu, quand il voit ce que je fais, doit détourner mon regard, détourner pardon, le regard tellement ça le dégoûte. Une autre question qu'on peut se poser, cela m'est-il conseillé par la sagesse divine et par l'expérience humaine? Il y a la sagesse. Vous savez que notre éminent frère Benoît nous a parlé de la sagesse. Demandons la sagesse à Dieu pour gérer notre liberté. Demandons que Dieu nous donne sa sagesse pour faire des choix qui lui plaisent. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu dit? Qu'est-ce que la sagesse que Dieu a mis en moi me dit? Mais aussi, qu'est-ce que l'expérience des autres me dit? Je donne encore le... Ça, c'est un exemple que je peux prendre parce que, au moins, ça ne... je donne encore l'exemple du casino. Personne ne va au casino ici, s'il vous plaît. Non, ça va, je peux parler de ça comme je veux. Mais aller au casino, par exemple, l'expérience humaine, on le sait tous que ça rend esclave, ce truc. On le sait. Une autre question, est-ce que ce que je fais pourrait être une pierre d'achoppement pour autrui? Est-ce que mon attitude pourrait faire tomber un frère? Si je me trouve dans un lieu, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je vais donner comme exemple? C'est compliqué les exemples ici, parce qu'après, il ne faut pas vous viser. Donc je vais donner un exemple. Quel exemple? Oui, bon, je vais donner un exemple. Oui. Moi, j'habite à Gosselies. Nathalie aussi habite à Gosselies, et Samuel aussi. Et Jean-Pierre aussi habite à Gosselies. À Gosselies, il y a un faubourg, qu'on appelle le faubourg de Bruxelles. Si je passe mes soirées au faubourg de Bruxelles à marcher, dans le faubourg de Bruxelles, à regarder les vitrines, ah, mais je fais rien de mal, hein, je regarde juste les vitrines. Vous n'avez jamais été à Gosselies, vous, non, c'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je sois une pierre d'achoppement pour quelqu'un? Pour un de mes frères, qui quelque part s'opposerait, se dirait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Évidemment, on passe là tous les jours, hein, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par là. Je dis juste qu'il y a des attitudes qui, bien que pas forcément mauvaises, peuvent faire tomber quelqu'un, un jeune croyant, qui ne comprendrait pas ce que tu fais là. Qui ne comprendrait pas pourquoi tous les soirs, toi tu marches dans cette rue-là. Ah mais je ne fais rien, je vais marcher là, ou je fais mon jogging là. Et je fais aussi mes tours de torticolis comme ça. Est-ce que je ne peux pas faire tomber un jeune croyant à côté de moi qui passerait par là et qui ne comprendrait pas, tiens, oui, je dis ça mais je passe ça tous les jours, hein, je le redis encore, mais c'est une façon de dire qu'il y a un discernement à avoir. Bon, malheureusement, il est temps, mais sans être long, posons-nous vraiment cette question. Est-ce que je sais gérer ma liberté que Dieu me donne? Dieu aurait pu nous donner, comme je dis, un petit manuel avec tout qui est écrit dedans. Il ne l'a pas fait. Il nous a rendus responsables de notre vie, de notre foi, des choix que nous faisons. Est-ce que nous faisons des choix qui plaisent à Dieu? Est-ce que nous sommes capables de découvrir dans notre vie les choses qui peut-être ne plaisent pas à Dieu? Il y a quelqu'un qui me disait, c'est un exemple. Moi, je ne regarde plus, enfin, je ne sais plus comment. C'est un exemple, hein. C'est un exemple. Vous voyez les... Sonia, tu dois connaître ça. Les trucs, là. Non, pas les feux de l'amour. Mais c'est bien, les feux de l'amour. Qu'est-ce que tu viens avec les feux de l'amour, toi? Non, ça, c'est bien. Non, tu vois le truc où on fait des gîtes et tout ça, où on fait des gîtes et tout le bazar, ou alors les mariages et tout ça. Parce que, donc la personne disait, moi je ne regarde plus ça. Je ne regarde plus parce que j'ai remarqué qu'en fait, ils ne font que se critiquer pendant tout le truc. C'est ça le jeu. C'est critiquer l'autre. Et parfois être très méchant. Mais la personne qui dit ça, elle fait son propre choix. C'est sa liberté. Elle ne nous l'impose pas à nous tous. Si toi tu as envie de continuer à regarder, tu peux regarder. C'est ta conscience, c'est ton choix. Mais elle, avec sa liberté, elle estime que regarder ça, ça ne plaît pas à Dieu. Et donc elle fait son choix. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire des choix de ce type-là. Pour terminer, Philippiens 1, versets 9 à 10, c'est la prière de l'apôtre Paul. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de, de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de Dieu et à la louange de Dieu. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen.